Hardigan présente la trilogie de l'Empire. Tome 1, Fille de l'Empire. De Raymond E. Feist et Jeanne Evertz. Traduit par Anne Vétillard. Lu par Manon Jomin. Chapitre 1. La Dame. Le prêtre frappa le gong de son maillet de bronze. Le son se réverbéra sous les dômes cintrés du temple, ornés de splendides bas-reliefs aux couleurs vives. La note solitaire résonna entre les murs, s'affaiblissant jusqu'à ne plus devenir que le souvenir d'une tonalité, le fantôme d'un son. Mara s'agenouilla sur les dalles froides du temple, qui lui volèrent immédiatement sa chaleur. Elle frissonna, mais sans que le froid en soit la cause. Elle lança rapidement un coup d'œil sur sa gauche, là où une autre initiée s'était agenouillée dans une posture identique à la sienne. Celle-ci imitait les gestes de Mara, tandis qu'elle soulevait la coiffe blanche des novices de l'ordre de l'Ashima, la déesse de la lumière intérieure. Immobile dans cette attitude inconfortable, le voile de lin drapé comme une tente au-dessus de sa tête, Mara attendait impatiemment le moment où la coiffe pourrait être abaissée et nouée. À peine avait-elle soulevé le tissu, que celui-ci avait pesé sur ses bras comme une tonne de pierre. Le gong résonna une nouvelle fois. Reprenant conscience de la présence éternelle de la déesse, Mara grimaça intérieurement en songeant à l'irrévérence de ses pensées. C'était l'instant, entre tous, où son attention ne devait pas vagabonder. Silencieusement, elle pria la déesse de lui pardonner, invoquant la nervosité, la fatigue et la surexcitation combinées à l'appréhension. Mara supplia la dame de la guider vers la paix intérieure qu'elle désirait si ardemment. Le gong sonna à nouveau. Le troisième coup sur 22. 20 pour les dieux, 1 pour la lumière du ciel, et 1 pour les enfants imparfaits qui allaient bientôt entrer au service de la déesse de la sagesse du ciel suprême. Âgée de 17 ans seulement, Mara se préparait à renoncer au monde temporel, tout comme la jeune fille agenouillée à ses côtés qui, dans 19 autres coups de gong, deviendrait sa sœur, même si elle ne s'était rencontrée que 2 semaines auparavant. Mara étudia sa future sœur. Oura était une jeune fille revêche d'une famille de la province de Lâche, sans clan mais richissime, alors qu'elle-même appartenait à une ancienne et puissante famille, les Akoma. L'entrée d'Oura au temple était une démonstration publique de la piété familiale, ordonnée par son oncle, le prétendu chef de famille qui cherchait à entrer dans le premier clan qui accepterait sa maisonnée. Mara, elle, avait presque dû se rebeller contre son père pour entrer dans l'ordre. Quand les deux jeunes filles s'étaient racontées leur histoire lors de leur première rencontre, Oura avait été incrédule, puis presque irritée de voir que la fille d'un puissant seigneur voulait se cloîtrer pour l'éternité derrière les murs de l'ordre. L'héritage de Mara lui assurait une position dans son clan, de puissants alliés, un vaste choix de soupirants d'un rang élevé et la certitude d'un bon mariage avec le fils d'une famille importante. Oura se sacrifiait, comme elle disait, pour s'assurer que les prochaines générations de filles de sa famille auraient les choses auxquelles Mara renonçait. Mara se demanda à nouveau si Oura ferait une bonne sœur pour l'ordre de l'Ashima. Puis, une fois encore, elle s'interrogea sur sa propre valeur, espérant être digne d'entrer dans la congrégation. Le gong résonna, d'un timbre profond et riche. Mara ferma les yeux un moment, priant pour trouver aide et réconfort. Pourquoi était-elle encore dévorée par le doute? Dans 18 coups, elle perdrait à jamais sa famille, ses amis et tout ce qui lui était familier. Elle laisserait derrière elle sa vie passée, depuis ses premiers jeux d'enfant jusqu'aux préoccupations d'une jeune fille de la noblesse sur le rôle que jouait sa famille dans le jeu du conseil, cette lutte sans fin pour le pouvoir qui conditionnait la vie de tous les Tsurani. Oura deviendrait sa sœur, quelles que soient leurs différences sociales, car dans l'ordre de l'Ashima, nul ne tenait compte de l'honneur personnel ou du renom familial. Il ne lui resterait que le service de la déesse, par la chasteté et l'obéissance. Le gong sonna une nouvelle fois, le cinquième coup. Mara jeta un regard furtif vers l'autel placé sur l'estrade d'honneur. Encadré par les arches ciselées, 6 prêtres et prêtresses